Le psaume 94 me dit que les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Psaume 94, verset 19. Et bien souvent, dans nos pensées, il y a cette espèce, vous voyez, comme pour cette femme-là, il y a cette espèce de petit brouillard comme ça qui est là. Ça fait des fois, nos pensées forment un énorme sac de nœuds, surtout quand ça ne va pas, surtout dans la difficulté, dans l'adversité, quand les choses sont compliquées, quand on est éprouvé d'une façon ou d'une autre. C'est là que, très souvent, la machine à penser devient extrêmement pénible, difficile à gérer. Nos pensées sont nombreuses, nos pensées sont incessantes, elles ne s'arrêtent jamais. Je ne sais pas vous, moi j'ai déjà essayé de ne penser à rien. Pourquoi vous rigolez ? Parce que ce n'est pas possible. Parfois vous avez envoyé le petit dans sa chambre, vous avez fermé la porte, vous avez coupé le téléphone, vous avez éteint la musique, ou quand le petit est à l'école, ou quand votre mari est au travail, ou votre femme au travail, vous dites « Ah, je vais prendre un petit peu de repos, j'en peux plus ». Vous vous allongez, vous êtes presque même dans l'obscurité, vous êtes là, ça ne fait pas 30 secondes que vous êtes allongé, et là, pouf ! Je ne peux pas ne pas penser. Dieu nous a créés à son image. Et nous avons cette capacité, c'est merveilleux, c'est un privilège. Parmi tant d'autres aspects, c'est ces aspects qui font que nous sommes à l'image de Dieu. C'est merveilleux d'être doué de la pensée et de la parole. C'est ce qui nous distingue notamment des animaux et des végétaux. Les animaux, les végétaux, on le sait, n'ont pas d'âme, ils ne pensent pas. Les animaux ont un instinct, mais ils ne conçoivent pas de pensée, ils ne les expriment pas. Et ce qui fait que l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu, le point culminant de la création sur la terre, c'est justement le fait qu'il soit doué, doté de pensées, il conçoit des pensées, il en reçoit, il en conçoit, et il les transmet par le biais de la parole. C'est ce qui fait de nous des êtres exceptionnels. Mais c'est aussi tout notre problème. Quand les pensées s'agitent au-dedans de moi, quand elles sont nombreuses, quand elles sont envahissantes, quand elles sont là, comme des, vous savez, comme des oiseaux qui tournent. Vous n'avez jamais vu ces flopées de moineaux qui se déplacent ? Parfois, les pensées sont comme des flopées de moineaux, comme ça. Et un jour, un homme de Dieu, je ne sais plus qui, bon, c'est ce qu'il a dit qui est important, ce n'est pas le nom. Un homme de Dieu a dit un jour, « Je ne peux pas empêcher les oiseaux de tourner autour de moi. » Mais je peux les empêcher de s'installer et de faire leur nid. Et bien souvent, frères et sœurs, nous sommes tenus en échec sur bien des situations. C'est pas que je peux éviter que les pensées, je peux pas éviter à des pensées mauvaises de passer. Mais je peux les empêcher de s'installer, je peux les empêcher de faire leur nid. Vous pourrez jamais empêcher l'ennemi de vos âmes d'essayer de vous souffler des pensées contraires. Mais vous pouvez empêcher, vous pouvez les rejeter et vous pouvez choisir ce que vous voulez penser. J'insiste, on en reparlera. Vous pouvez choisir ce que vous voulez penser. Les pensées sont puissantes, elles sont envahissantes, elles sont tenaces. Mais si la palisse était là ce soir, il vous dirait « une pensée n'est qu'une pensée ». Par définition, une pensée n'est qu'une pensée. Une pensée ne détermine pas la vérité. Une pensée ne détermine pas la réalité spirituelle. Quand on est malade, la première chose qu'on pense, c'est... Surtout les hommes, parce que alors là, les hommes, on est pire. Alors pour ça, on est champion. Dès qu'il y a un truc, là, ça y est, on va mourir. Et dès qu'on est un peu malade, ça y est, je vais mourir. La pensée qui vient, tu vas mourir, c'est fichu, tu t'en sortiras pas. Qu'est-ce que vous en savez ? C'est une projection, c'est une pensée de l'ennemi pour vous maintenir enfermé. C'est une projection. La Bible me dit que Dieu a compté tous mes jours. Excusez-moi, je peux être malade, je peux être aux portes de la mort. Si mes jours ne sont pas arrivés à leur terme, croyez-moi, je ne vais pas mourir. Parce que Dieu a compté tous mes jours. Et quand des gens disent « je vais mourir », je dis « ah bon ? Parce que vous, vous connaissez le nombre de vos jours ? Vous savez que vous êtes arrivé au bout ? Personne ne connaît le nombre de ses jours. Dieu connaît le nombre de mes jours. Mais quand le diable me dit « tu vas mourir », alors là, à ce moment-là, je commence à rentrer dans une spirale. J'accepte cette pensée comme vérité, comme réalité, alors que je n'en sais rien du tout, c'est un mensonge. Et j'accepte et je commence à dégringoler. Et parce que j'accepte cette pensée, ben, du coup, je ne crois plus trop à la guérison, je n'ai plus trop la foi. Et je ne prie plus. Ou si je prie, malheureusement, on peut prier par superstition, on peut prier sans la foi. Les pensées sont extrêmement puissantes, elles sont extrêmement importantes. Et même si elles sont fortes, même si elles sont envahissantes, même si elles sont tenaces, même si elles sont récurrentes, elles ne sont pas nécessairement la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Et sur ma situation de maladie, je reprends mon exemple, ou autre, tant que Dieu n'a pas dit, tant que Dieu ne m'a pas donné une parole précise, le reste, c'est des pensées qui ne déterminent pas la réalité spirituelle. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité spirituelle, c'est ce que Dieu dit. Et si Dieu n'a pas dit quelque chose de précis, j'ai déjà rencontré un jour quelqu'un qui m'a dit, dans sa maladie, il m'a dit, le Seigneur, je suis dans une paix énorme, je suis dans une paix extrême. Le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a fait sentir que cette tempête, c'était ma dernière tempête. Il vient me chercher. Et la personne est partie dans une paix extraordinaire. Mais si Dieu n'a rien dit, j'aimerais vous faire comprendre aussi, on va être plus dans des généralités ce soir, dans des grandes lignes. Les pensées s'agitent en foule au-dedans de nous. Je pense qu'il est important, frères et sœurs, de bien comprendre, de bien saisir qu'il existe trois sphères de pensée. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas quatre, il existe trois sphères de pensée. Et l'un des meilleurs textes, si ce n'est même le meilleur texte, qui peut nous permettre d'illustrer ces trois sphères de pensée, c'est justement ce fameux moment où Jésus, ayant annoncé la croix pour lui-même à ses disciples, nous lisons en Matthieu 16, versets 22 et 23, « Pierre, ayant pris Jésus à part, se mit à le reprendre et lui dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les trois sphères de pensée sont comprises. » C'est le meilleur texte pour illustrer les sphères de pensée. Dans ce texte, Jésus met en évidence en deux phrases, en une seule phrase même, les trois sphères de pensée auxquelles vous avez affaire. Arrière de moi, Satan, tes pensées, il y a la pensée, il y a les pensées de l'ennemi, ne sont pas celles de Dieu, il y a les pensées de Dieu, la sphère de Dieu, mais celle des hommes. Parce que l'homme n'étant pas seulement un être de chair et de sang, j'ai un esprit, j'ai un être intérieur, j'ai une vie intérieure, je peux concevoir aussi mes propres pensées. Et ce qui est bien embêtant, c'est que je suis souvent amené à confondre mes pensées avec la pensée de Dieu. C'est très facile de prendre sa pensée ou celle de l'ennemi qui se déguise en ange de lumière. C'est très facile de prendre sa pensée pour celle de Dieu. Pierre était convaincu qu'il était en train de véhiculer la pensée de Dieu. Il commence par « À Dieu ne plaise, Seigneur !» Genre, il était en train d'apporter une grande parole prophétique. Il était sûr de son coup. Non, ce n'était pas la pensée de Dieu. C'était simplement la pensée de l'ennemi. Et l'ennemi avait... Il lui avait susurré un truc à l'oreille, il lui avait soufflé quelque chose. Pierre, pensant bien faire, animé de bons sentiments, se disant que son Seigneur, bon, juste et saint, excellent comme il était, pourrait jamais être traité comme un brigand, c'était complètement impensable pour lui. Il s'est dit, mais non, c'est vraiment le Seigneur qui m'a soufflé ça, c'est une pensée de Dieu. Il a dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et il a dû avoir un choc vu ce que le Seigneur a répondu. Et on voit ici les trois sphères de pensée. Comprenons sur la base de ce texte, je vous propose de comprendre autre chose au sujet de notre ennemi. L'épître de Jude me dit que le diable est lié dans une chaîne éternelle. L'apôtre Jean me dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et pour le réduire à l'impuissance. L'apôtre Paul dit qu'à la croix, Jésus a triomphé de toutes les autorités, les dominations, les a livrées en spectacle. On a largement assez de textes dans la parole de Dieu pour savoir que l'ennemi, même s'il se liguait avec tout l'enfer juste contre vous toute seule, ou tout seul, monsieur, il est sans effet. Il ne peut rien faire. Il est réduit à l'impuissance, il est dépouillé de ses œuvres, il n'a aucune autorité sur les enfants de Dieu, sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Et ça, c'est bien des pensées que les chrétiens ont bien du mal à acquérir, parce que souvent, malheureusement, il y a des gens qui voient le diable nulle part, mais il y en a qui le voient partout. Et ça aussi, c'est aussi un piège de l'ennemi. Jésus a vaincu le diable. Il l'a lié. Il ne peut rien faire contre vous. Jésus l'a lié. Regardez-moi. Il l'a lié. Mais il ne l'a pas. Il ne l'a pas bâillonné. Il ne lui a pas enlevé son droit de parole. Il lui permet, le diable peut encore parler. Il peut souffler des pensées. Pourquoi ? Mais parce qu'il faut que l'homme reste libre de ses choix. Le plus grand cadeau que Dieu ait fait à chacun d'entre nous sur cette terre, c'est le libre arbitre. C'est la capacité de choisir. C'est d'être capable de concevoir des pensées. C'est d'être capable de les communiquer par la parole. C'est d'être capable d'avoir une vie avec lui, mais il faut que l'homme reste libre de ses choix. S'il n'y a que la voix de Dieu et que la voix du diable ne peut plus se faire entendre, Dieu est devenu un tyran, il est devenu un despote, il est devenu ce que vous voulez, mais de toute façon, on pourrait tergiverser pendant des heures là-dessus. La question, c'est que vous n'auriez plus jamais le choix. Et vous devez en permanence, malgré les risques que ça comporte, être des hommes et des femmes à l'image de Dieu, libres de vos choix. Vous choisissez qui vous voulez écouter. Vous choisissez qui vous voulez croire. Vous choisissez ce que vous voulez penser. C'est ça la bonne nouvelle. Et malheureusement, si nous vivons bien souvent dominés, écrasé, s'il y a des choses spirituelles dont nous ne nous emparons pas, comme je vous l'ai cité en exemple tout à l'heure, en introduction, c'est parce que nous avons laissé à l'ennemi l'avantage dans nos pensées. Et nous avons cru ce qu'il disait, nous l'avons accepté comme vérité, et du coup, puisque ça semble vrai, eh bien... Mais le diable n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir, si on peut parler ainsi, le seul pouvoir qu'il pourrait avoir, ce serait celui que nous lui laisserions par l'intermédiaire de nos pensées, en écoutant ce qu'il nous dit. Il faut bien comprendre aussi, quand on parle de combat spirituel, c'est quoi un combat spirituel ? C'est un combat d'esprit. Ok ? Il n'y a pas un petit démon qui se balade dans la rue avec une épée et vous ne sortez pas avec un bouclier, des chaussures, un casque. C'est un combat d'esprit. Esprit contre esprit. L'esprit de ce monde, l'esprit du malin, contre l'esprit de Dieu qui habite en moi. Esprit contre esprit. Pensée contre pensée. Le véritable combat spirituel, en réalité, c'est un combat de pensée. La pensée de Dieu contre la pensée de l'ennemi. Et vous, ça ne vous plaît pas, moi non plus, mais c'est comme ça, il vaut mieux le comprendre et prendre les dispositions nécessaires. Et vous, vous êtes au milieu. Et... Non, parce qu'il n'y a que moi. Vous, ça tape jamais là-dedans. Ça ne tape pas là-dedans? Vous n'avez pas des fois une multitude de pensées à vous avoir mal au crâne? Un combat de pensée. C'est ça le combat spirituel. Pensée contre pensée. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons un esprit, nous concevons nos propres pensées et nous sommes réceptifs à la pensée du monde spirituel. Et bien souvent, Jésus l'a mis en évidence aussi dans ce texte, entre la pensée du diable et la pensée de l'homme, c'est quasiment la même chose. Et c'est pour ça que mes pensées, mon être intérieur, là où je conçois les pensées spirituelles, c'est là que mon être intérieur devient un véritable champ de bataille. Quelqu'un a fait à sa façon, a fait « Oh oui !» Mon être intérieur devient un véritable champ de bataille. Et c'est là que les batailles se remportent. C'est là que les combats, les vrais combats se livrent. C'est là que les vraies batailles se disputent. C'est là que les vrais combats se gagnent ou se perdent. C'est pas dans les circonstances. La pensée est tellement puissante, ce ne sont pas dans les circonstances que les victoires se remportent. Avant que les victoires soient remportées à l'extérieur, croyez-moi, elles sont toujours remportées d'abord à l'intérieur. Et si je ne suis pas vainqueur à l'intérieur, je ne serai jamais victorieux dans les circonstances de ma vie, quelles qu'elles soient. Les victoires se remportent d'abord dans les pensées. On ne peut pas remporter de victoire à l'extérieur, je répète, si on ne les a pas d'abord remportées à l'intérieur. Quand on a des textes classiques très connus, comme par exemple ce fameux moment dans le livre des Nombres où Moïse envoie 12 espions, on connaît tous ça, Moïse envoie 12 espions pour explorer le pays de Canaan. On sait que l'origine de ce projet est divin. Nombre 13 commence en ces mots. L'Éternel parla à Moïse. Et sur cette base-là, parce que Dieu a parlé, tout le projet va se mettre en marche. D'accord ? Il y a la pensée de Dieu et la parole de Dieu. Pensée, parole. La pensée de Dieu, la parole de Dieu. Dieu, par sa parole, communique sa pensée, son plan, son intention pour son peuple. Moïse envoie donc les 12 espions, mais quand ils reviennent, on le sait, il n'y a que Josué et Caleb qui restent, excusez-moi, sur la même longueur d'onde que le Seigneur, et les 10 autres qui vont décrier le pays et qui vont dire que ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, pourquoi est-ce que le peuple n'a pas été dans le pays promis? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé? Ils n'ont même pas essayé. Des fois, on dit « Ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je suis pas comme si... » T'as même pas essayé. Parce que avant d'être vainqueur ou vaincu, ce qui s'est passé, c'est que la discussion à laquelle on est témoin dans Nombre 13, c'est qu'en réalité, c'est d'abord un combat par l'intermédiaire des paroles. Il y a un combat de pensée entre Josué et Caleb et de l'autre côté, les 10 espions. Et à un moment, Josué et Caleb, il est dit, Caleb a fait taire le peuple qui murmurait et il a dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Il est en train de communiquer la pensée de Dieu. Mais les autres disent, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et là, ils sont là, ils discutent, ils sont en train de se bagarrer. Vous relisez tout Nombre 13, vous allez voir. Ils sont en train de se bagarrer, pensée contre pensée. Et malheureusement, c'est la pensée de l'ennemi qui a pris le dessus. Et le comble, ils n'ont pas été défaits dans le pays. Ben non, ils n'y sont même pas allés. Non, si tu ne te bats pas, tu ne risques pas de gagner. Hein. Si tu n'essayes pas. Un autre texte très connu, il faut que je prenne un exemple de victoire. Le récit de dans 1 Samuel 17, le récit de David et Goliath, très connu. Avant d'être vainqueur sur Goliath, relisez bien tout le texte, méditez dessus, regardez les réflexions, les paroles, c'est-à-dire les pensées que David va véhiculer au travers de sa parole, des paroles qu'il donne. Regardez bien ses pensées et vous vous apercevrez que David est vainqueur dans son être intérieur avant d'être vainqueur sur Goliath, sur son géant. Et quand on assiste, pareil, à ce... Avant de lui balancer une pierre et de le renverser, avant de lui couper la tête parce qu'il lui a piqué son épée, le combat a déjà été un combat pensée spirituelle, d'esprit, pensée contre pensée, au travers de la parole, de ce qu'il se disait. Et il y avait la pensée de l'ennemi. Goliath, qui est un type, avec les Philistins, un type de l'ennemi, Goliath a dit à David, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Il lui a dit, « T'es foutu, tu vas mourir. » Voilà ce qu'il lui a dit. Et David, il n'a pas accepté la pensée de Goliath. Il savait que c'était une pensée du diable. Il n'a pas accepté la pensée de l'ennemi. Et il lui a répondu, je paraphrase, « Non, mon grand !» Parce qu'il était tellement grand, il ne pouvait pas le rater. Il lui a dit, non mon grand, c'est pas toi qui vas me tuer, c'est moi qui vais te tuer. Tu penses que tu es là pour me désinguer? Pardon, ce que tu n'as pas compris, c'est que Dieu a permis que je sois là, c'est Dieu qui te livre entre mes mains. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Au moment où David dit ça, il n'a pas d'épée. Parce que le problème, ce n'est pas un problème de circonstance. Le problème, c'est un problème spirituel. Pensée contre pensée. Et David, on le sait, a été vainqueur, mais avant d'être vainqueur à l'extérieur, il a été vainqueur à l'intérieur. Je continue sur des grands principes. Ce sera un petit peu plus court ici. On a parlé de la pensée de Dieu, de la pensée de l'ennemi. Bon, on a dit que l'homme était capable de concevoir ses propres pensées. Alors, qu'en est-il de la pensée de l'homme? Moi, j'ai vite soldé. Psaume 94, verset 11. « L'Éternel connaît les pensées de l'homme et il sait qu'elles sont... » Ça, c'est fait. C'est même pas la peine que tu te tritures l'esprit. De toute façon, ce que tu penses n'a aucun impact dans le monde spirituel. Les pensées de l'homme sont vaines, c'est-à-dire qu'elles sont inutiles. Elles ne servent à rien. C'est ça, quelque chose qui est vain, on est d'accord? C'est inutile, c'est que ça ne produit rien, c'est que ça ne sert à rien, c'est que ça ne va te mener nulle part. Les pensées de l'homme sont vaines. J'aurais pu prendre aussi, pour ceux qui notent, c'est pas affiché, c'est pas grave, ce texte de la Genèse où Dieu dit à Noé, les pensées du cœur de l'homme... Parce que l'homme conçoit ses propres pensées. Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, dès sa jeunesse. Comme ça, c'est réglé. Des pensées qui ne mènent nulle part, des pensées qui sont naturellement mauvaises. La pensée de l'homme, de l'être humain, n'est d'aucun secours. Il faut soit que la pensée de Dieu renverse les pensées ennemies, s'installe dans mon cœur et me fasse aller de l'avant pour triompher, ou alors c'est la pensée de l'ennemi qui va rester dans mon cœur et qui va me paralyser, m'enfermer, me rendre captif, ce que vous voulez. Ah, le point suivant, tu peux avancer la diapo suivante. Celui-là, je l'aime bien. Le proverbe 23 dit, au verset 7, « L'homme... » Je paraphrase, n'est pas autre chose que ce qu'il pense. Ben oui, c'est vrai ça. Oui, c'est la Bible qui le dit. L'homme est comme les pensées de son âme. En d'autres termes, ce que tu penses, c'est ce que tu es. Dis-moi ce que tu penses. Et je te dirai qui tu es. Il y en a qui suivent. Dis-moi ce que tu penses et je te dirai qui tu es. C'est plus fort encore dans le texte. C'est écrit « L'homme est comme les pensées de son âme ». Mais dans la pensée, le mot hébreu qui est là va beaucoup plus loin. C'est ce qui est au plus profond, c'est-à-dire que l'homme est comme les arrière-pensées. C'est ce qui est au plus profond, les arrière-pensées de son âme. Nous, on n'a jamais d'arrière-pensées. Nous pouvons paraître, mais ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous paraissons. Ce n'est pas ce que nous affichons aux autres. Ce que nous sommes, c'est ce que nous pensons. Ce que nous sommes, ce n'est pas ce que nous laissons paraître. Ce sont nos pensées qui nous disent qui nous sommes. D'où la nécessité. Et ça, c'est pas évident, ça s'apprend. La nécessité de savoir observer, analyser, débusquer nos pensées et pas leur laisser libre cours comme ça. C'est pas un exercice facile, j'en conviens, mais c'est tout à fait possible. Mes pensées me disent qui je suis. Et elles me disent à quoi j'en suis. Si vous allez voir quelqu'un et que vous lui dites « Ah, bonjour, ça va ? Oui, ça me dit. » Puis qu'à l'intérieur, en fait, « Qu'est-ce qui m'énerve celui-là ? Il est lourd, mais qu'est-ce qu'il est lourd ?» Ah, arrêt sur image. Là, il faudrait pouvoir avoir une petite télécommande, il faudrait mettre l'arrêt sur l'image. Et à ce moment-là, ce que tu es, ce n'est pas une personne sympa, c'est une personne hypocrite. Désolé, ce n'est pas la partie la plus plaisante du message. Mais vous savez, j'ai insisté sur ce point, j'ai vraiment voulu le mettre, parce que nous ne sommes pas autre chose que ce que nous pensons. Et on a beaucoup, beaucoup à apprendre de nos propres pensées. Vos pensées vont vous dire, vont vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même. Si vous voulez vous connaître mieux, commencez à analyser vos pensées. Quand vous pensez à un homme comme Jérémie, qui dans son livre de Lamentations, alors certes, Jérémie, c'est un homme qui a beaucoup souffert. Il est passé par des moments difficiles, il n'invente rien. Quand il parle de l'absinthe, du poison, bon, il est vraiment passé par des moments difficiles. Et à un moment, Jérémie dit « Quand je pense... » Ah oui, c'est là le problème, c'est tout ça le problème. Il dit « Quand je pense à ma misère, à ma détresse, à l'absinthe et au poison, quand je ressasse... » C'est ça qu'il a. Quand je ressasse sans arrêt les mêmes choses, quand je ressasse sans arrêt les mêmes problèmes, les mêmes impossibilités, les mêmes limites, les mêmes échecs, les mêmes amertumes, quand je ressasse sans arrêt les mêmes choses, mon âme est abattue au-dedans de moi. Littéralement, dans la pensée, c'est mon âme est à terre. Mon âme est KO. Littéralement, il dit « Mon âme est à terre ». Alors oui, bien sûr, il y a des moments, frères et sœurs, je suis le premier à le dire, j'en suis conscient, il y a des moments dans la vie chrétienne, on a des sérieux combats, on passe par des choses, des situations familiales, physiques, professionnelles ou autres, excusez-moi. Ah oui, il y a des vagues, il y a du vent, des vents contraires. Excusez-moi, oui, on envoie des vertes et des pas mûres. Comme dit Jacques, vous envoyez de toutes les couleurs. Jacques 1er, c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que je vais ressasser sans arrêt les mêmes choses, ce n'est pas parce que je vais nourrir mes pensées avec mes blessures qui sont bel et bien réelles et qui sont bel et bien graves, parce que oui, ce qu'on t'a fait, ce n'est pas juste. Oui, ce qu'on t'a fait, ce n'est pas normal. Oui, on n'aurait jamais dû te le dire. Oui, il n'aurait jamais dû te parler comme il t'a parlé. Oui, elle n'aurait jamais dû faire ce qu'elle t'a fait. Oui, tes enfants n'auraient jamais dû réagir comme ils ont réagi. Ils n'auraient jamais dû t'infliger ce qu'ils t'ont infligé. Bien sûr. C'est certes, c'est vrai. Et ce qu'on t'a fait, c'est très grave. Oui, c'est vrai. Et la Bible n'en cache rien. Elle ne va pas nier nos circonstances. Comme je le dis toujours, elle apporte un Dieu plus grand que mes circonstances. Et ce n'est pas parce que je vais m'alimenter avec mes propres blessures que ça va aller mieux. Vous savez, si vous avez une énorme blessure sur vous, vous pouvez passer votre vie à la regarder. Il n'y a aucun pouvoir cicatrisant dans votre regard. Hein. Vous pouvez la regarder sans arrêt, elle ne va pas cicatriser. Il faut regarder au médecin qui cicatrise les plaies. Vous pouvez en parler, y penser. Mais ce n'est pas parce que la parole dans ce domaine-là n'a aucun pouvoir de guérison. La parole de Dieu, elle guérit le cœur, bien sûr. Alors mes pensées me disent qui je suis. Et quand je vois mon brave Jérémie qui dit « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, et moi, ses pensées me disent qui il est. Jérémie a naturellement une tendance dépressive. Ce n'est pas moqueur, ce n'est pas méchant. Il a naturellement une tendance dépressive. Nos pensées, frères et sœurs, sont un excellent indicateur de notre santé spirituelle. Un excellent indicateur de nos pensées spirituelles. Elles sont cachées, elles sont enfouies, mais elles sont un excellent indicateur de notre santé spirituelle. De la même façon que dans votre corps, il y a des choses que vous ne voyez pas, c'est caché, c'est enfoui. Comme le sang, tiens, par exemple. Prenons l'exemple du sang. Votre sang, à moins qu'on vous ouvre, votre sang, vous ne le voyez pas. Quand on le voit, c'est qu'il y a un problème. Le sang, vous ne le voyez pas, il est là, il est à l'intérieur, c'est la vie, il fait ce qu'il a à faire. Et puis lorsque le médecin veut savoir dans quel état de santé vous êtes, il ne va pas vous demander « Bon, amenez-moi la liste de vos courses, de vos assiettes, les restes, je veux savoir, montrez-moi ce que vous avez mangé tel jour. » Il n'a pas besoin d'avoir la liste de vos repas depuis 2-3 mois. Il dit « On va faire une prise de sang. » On va faire une prise de sang. Et en fonction du résultat, il va tout vous dire sur ce que vous avez mangé. Ouh, il faut arrêter le beurre et le fromage, il y a beaucoup trop de cholestérol dans le sang. Comment vous savez que je mange du... Eh bien parce qu'il y a plein de cholestérol dans votre sang. Le sang est un excellent indicateur de ma santé physique. De la même façon, mes pensées, tout ce qui circule à l'intérieur, sont des excellents indicateurs de mon état de santé spirituelle. Dis-moi ce que tu penses, je te dirai qui tu es. Alors, les pensées, on peut essayer de les enfouir, on peut essayer de les étouffer. Vous connaissez l'expression ? Je dis rien, mais j'en pense pas moins. Il y a une espèce de code moral et civique qui fait qu'on a étouffé certaines pensées. La bienséance fait que on ne dit pas ce qu'on pense, mais on n'en pense pas moins. Alors on peut les étouffer, on peut les enfouir, on peut les filtrer. Il y a le filtre de l'éducation, le filtre de la morale. Le filtre de la bienséance, le filtre de ceci, le filtre de la peur. J'aimerais bien lui dire ce que je pense, mais le problème c'est qu'il est plus baraqué que moi, alors je lui dis rien. Mais si j'étais le plus fort, crois-moi, je lui dirais ce que je pense. J'ai peur de sa réaction, je dis rien. Il y a des filtres comme ça. Mais, qu'on vous presse un petit peu trop, qu'on vous pique un peu trop, qu'on vous secoue un petit peu trop, que ça devienne un petit peu trop oppressant, certaines situations. Et là, les pensées, elles finissent toujours par sortir. Et on finit toujours, tôt ou tard, par dire ce qu'on pense vraiment. Je lui ai dit ces quatre vérités, et ça me fait du bien. Et on finit par dire ce qu'on pense. On a parlé sous le coup de la colère. Sous le coup d'un énervement, on a vidé son sac. Et là, la nature humaine reprend ses filtres. Et ensuite, on dit, je m'excuse, hein, mes mots ont dépassé ma pensée. Menteur, c'est pas vrai. Les mots ne dépassent pas la pensée. Nos mots sont l'expression de ce que nous pensons. Et c'est bien souvent quand ça va mal, quand on nous pique, quand on est en colère, quand on nous a poussé dans nos retranchements. C'est là qu'on dit vraiment ce qu'on pense. Et c'est là qu'on est honnête. Et là, on peut apprendre plein de choses sur nous-mêmes. Vous êtes content d'être venu ce soir, hein ? Bien, hein ? Non, mes mots n'ont pas dépassé ma pensée parce que Jésus dit en Matthieu 15, ce qui sort de la bouche vient du cœur. En Matthieu 12, Jésus dit aussi, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, etc., etc. Les mauvaises pensées viennent du cœur, elles viennent de l'être intérieur. Tiens, puisqu'on parle de ce texte, ça me fait penser à quelque chose. Quand Jésus dit, Matthieu 12, ne cherchez pas, c'est la même pensée qu'ici en Matthieu 15, hein, ce qui sort de la bouche vient du cœur. Mais quand Jésus dit, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les débauches, etc. etc. C'est pas un hasard que Jésus ait commencé, la première chose qu'il dit dans ce qui sort du cœur de l'homme, c'est les mauvaises pensées. Il n'a pas dit « du cœur de l'homme viennent les meurtres, les mensonges, les adultères, la débauche, les mauvaises pensées ». Non, non, il a dit « c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées ». Parce que les pensées, tout à l'heure je vous disais qu'on ne pouvait pas être victorieux si on n'était pas à l'extérieur, si on n'était pas d'abord à l'intérieur. De la même façon, c'est impossible, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui sort, ce que je conçois en moi, c'est ce qui va m'amener. Avant de chuter avec Bathsheba, qu'est-ce qu'il a fait, David ? Il a convoité. Ça a commencé dans la pensée. Ça a commencé dans le cœur. Et ça a été sa chute. Et David n'a pas chuté au moment où, excusez-moi d'être cru, il était au lit avec Bathsheba. Non, David a chuté quand il était sur son balcon. Et qu'il la regardait pour la convoiter. Et c'est là qu'il a déjà perdu la bataille. Tout est parti de ce point-là. Tout commence dans les pensées. Le cœur, mon être intérieur, c'est le siège de mes pensées. Et quand Jésus parle des pensées, il ne parle jamais de la tête. Quand il voit les pharisiens, il ne leur dit pas... qu'est-ce qu'il y a dans votre tête ? Non, non. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Parce que c'est là que ça se situe. Et alors désolé, c'est un petit peu, il y a des choses qui sont un peu techniques, c'est des grandes généralités, mais quand on a compris tout ça, quand on a compris les mécanismes, les tenants, les aboutissants, les enjeux, si seulement vous pouviez ne plus considérez vos pensées de la même façon et être très attentif à vos pensées. Évitez demain, mes frères, d'aller voir votre femme quand elle vous parle. Ah, t'as vu ce que tu penses là ? Eh bien, Stéphane, il a dit que c'est... Non, que chacun analyse son propre cœur, ses propres pensées, c'est mieux. Puis mes sœurs, ne mettez pas un grand coup de coude à votre mari pendant que je prêche. Ça, c'était pour toi. Alors, sachant cela... La diapo suivante, et je termine. On terminera par la prière, on ira plus loin demain. C'est pas parce qu'on est très mignon comme cet enfant. J'ai fait exprès de prendre un petit garçon très mignon. C'est pas parce qu'on est très gentil, très beau et très mignon que forcément on n'a que des bonnes pensées. Le proverbe 30, verset 32 dit « Si tu as des mauvaises pensées, et Dieu sait qu'on en a. Si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. C'est pas toute la solution, mais c'est un début de solution. C'est pas le tout de garder les mauvaises pensées. Mais si déjà les mauvaises pensées, elles ne sortent pas, ça peut éviter beaucoup, beaucoup de dégâts. Parce que les pensées, vous l'avez compris, les pensées sont puissantes. Les pensées sont contagieuses. Les pensées sont communicative. Et au travers de ce que vous dites, de votre pensée, vous pouvez blesser quelqu'un. Vous pouvez le casser. Vous pouvez l'enfermer sous un joug. Mets la main sur ta bouche quand tu as des mauvaises pensées, parce qu'au moins, elles ne vont pas se propager. Ça, c'est la première étape. Mais la deuxième étape, je terminerai avec ça, c'est important de comprendre que toutes nos pensées, sans exception, doivent passer par ce tamis, ce filtre, on peut dire, doivent passer par le filtre de la parole de Dieu. La parole de Dieu, il n'y a qu'elle, me dira si ce que je pense, je dois continuer à le penser, si c'est de Dieu, si c'est bon, si c'est de Dieu, ou si c'est de l'ennemi ou de moi, mais ce qui est kiff-kiff. Et j'aime beaucoup ce texte d'Hébreux 4 que vous voyez. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Elle partage ce qui est de l'homme et elle partage ce qui est de Dieu. La parole de Dieu me dit ce qui est de moi et ce qui est de lui. Elle me dit ce qui est bon ou mauvais dans mon système de pensée. Elle partage âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu me dit si ce que je pense est bon ou pas. Et on verra aussi un petit peu plus tard que la parole de Dieu a aussi, c'est ce que dit Jérémie, la parole de Dieu a ce rôle de marteau. Quand Jérémie dit « ta parole est comme un marteau qui brise le roc », c'est le roc, on va casser des cailloux, c'est quoi ? Non, le roc de nos cœurs, le roc de nos pensées. La parole de Dieu cherche à renverser, on en reparlera demain, ces rocs, Paul le dira avec une autre image, les forteresses de pensées hautes, épaisses. La parole de Dieu agit comme un marteau, elle vient pour renverser des pensées, et ensuite installer sa pensée. La pensée humaine, la pensée de l'ennemi est renversée et la pensée de Dieu commence à s'installer. La parole de Dieu, frères et sœurs, je termine avec ça, promis, écoutez-moi bien, elle n'est pas là seulement pour vous faire connaître le cœur de Dieu. Elle me révèle le cœur de Dieu, certes, et c'est déjà extraordinaire. Mais si je connais le cœur de Dieu et que je continue à penser comme je pense ou comme l'ennemi pense, à quoi ça me sert ? La parole de Dieu va beaucoup plus loin dans son action. Ce n'est pas de me faire connaître le cœur de Dieu, ce n'est pas un rôle informatif. La parole de Dieu, elle est là pour m'amener à penser comme Dieu pense. La parole de Dieu est là pour m'amener à faire le tri dans mes pensées, à chasser des pensées de moi ou de l'ennemi et à installer sa pensée dans mon cœur, la pensée du Christ doit s'installer en moi et elle va devenir un moteur de vie et je dois apprendre à penser comme Dieu pense. Si je pense comme Dieu pense, nécessairement, je vais parler comme il parle. Et je vais nécessairement me diriger comme lui, il se dirige. Et je vais nécessairement avoir toutes sortes de répercussions, de bienfaits, de bénéfices, de bénédictions, des directions. Je ne vous en ai pas parlé ce soir, je vous en parlerai demain soir. Je vous montrerai que vous ne pouvez pas aller autre part que là où vos pensées vous ont mené. Si vos pensées vous emmènent à gauche, si vos pensées tirent à gauche, comme le volant de la voiture, si ça tire à gauche, vous n'irez jamais à droite. Si vos pensées vont à droite, vous n'irez jamais à gauche. La parole de Dieu, elle juge, c'est-à-dire qu'elle statue sur les sentiments et les pensées du cœur. Elle me dit ce qui est de moi, de l'ennemi. Elle me dit ce qui est de Dieu. Elle veut renverser ce qui est mauvais. Et elle veut installer la pensée de Christ dans mon cœur. La parole veut m'amener à penser comme Dieu pense. Amen.